Luc, deux petites choses au sujet des pharmaciens. Là, ils trouvent pas bien grâce aux yeux de nos auditeurs. Quelqu'un qui dit fardeau administratif. Avez-vous déjà vu un pharmacien faire faillite? C'est vrai que les pharmaciens sont généralement prospères. Et quelqu'un qui nous dit ça vaut vraiment la peine de magasiner.
Pas tous en passant. Pas tous.
La plupart sont relativement prospères.
Attention, ce sont souvent comme une chaîne. Là.
Les pharmaciens propriétaires.
Non, mais je parle surtout de ceux, mettons, qui sont avec Jean Coutu, tout ça. Ils font partie d'une chaîne, puis c'est pas si payant que ça. C'est ça que je veux dire.
L'autre commentaire que je reçois, c'est quelqu'un qui s'est fait prescrire un médicament, un antibiotique, et son médecin lui a dit « magasine-le parce que ça coûte cher ». Il est arrivé à un écart de 115 $ entre deux pharmacies. Ça vaut vraiment la peine de magasiner son médicament.
Oh là là!
Ouais. Autre sujet, la ministre Geneviève Guilbeault est en train de donner une conférence de presse au cours de laquelle elle a confirmé que le patron de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, qui, si je ne me trompe pas, est le gendre de Robert Lafrenière, l'ancien patron de l'UPAC.
C'est une bombe, cette nouvelle-là. Non?
Martin Prudhomme est suspendu parce qu'il y aurait des allégations de nature criminelle contre lui. Allégations qui sont sous enquête par le Bureau d'enquête indépendante. Et entre-temps, c'est le numéro 2 de la Sûreté du Québec, Mario Bouchard, qui prend le relais.
Maintenant, tu réalises, là, c'est vraiment une bombe, là, parce que Martin Prudhomme, d'abord, ça a été un policier de carrière, ensuite un sous-ministre de la Sécurité publique, ensuite il est revenu comme chef de la SQ, puis quand il y a eu un éclatement au sein de la service de police de la Ville de Montréal, Prudhomme a été prêté au service de police de la Ville de Montréal pour faire le ménage, puis ramener ça
Monsieur Intégrité et Monsieur Redressement, là.
Oui. Exactement, c'est pour ça que je te dis que c'est une énorme bombe. Hein. C'est wow. Je sais pas où ça va mener, là, mais c'est des allégations criminelles.
Des allégations de nature
criminelle, vois.
C'est ça. Alors, on va suivre ça. Je sais pas si notre interlocuteur, qui est notre invité traditionnel du mercredi, est au courant de quelque chose. On l'a au bout du fil. Pascal Bérubé, le chef par intérim du Parti québécois. Allô?
Bonjour.
Est-ce qu'on vous l'apprend?
Pascal, c'est un dossier que tu as beaucoup suivi dans la dernière législature.
Et je suis au courant parce que je suis ça en même temps. Je suis à l'aéroport de Québec, là, j'arrive de Rouyn-Noranda et je m'en vais à Mont-Joli, mais on vient de m'informer de ça, mon directeur des communications. C'est majeur, Martin Prudhomme, effectivement, était sous-ministre. Et c'est un policier de carrière, un policier qui a des états de service exceptionnels. Et ensuite, on se souvient de l'histoire, prêté au SPVM, revient à la Sûreté du Québec. Mmh. Et tout ça arrive au même moment où on est à débattre d'une loi sur la nomination aux deux tiers du patron de la Sûreté du Québec. Donc, je suis un peu, même beaucoup surpris comme tout le monde. Je sais pas si on en apprendra plus, mais disons que déjà qu'il soit relevé de ses fonctions, là, c'est à peu près du jamais vu, là.
Pascal, on va attendre de voir d'avoir plus d'informations sur cette histoire-là, mais vous vouliez nous parler de la pénurie de main-d'œuvre en région. Il peut rien avoir de pire qu'à Québec. Bon.
Hey, ben j'ai des choses à vous apprendre de ma tournée. Moi, j'ai pas fait de relâche. Hein. Okay. Alors, j'ai décidé Chibougamau, Rouyn-Noranda. On est parti lundi matin, puis j'ai appris des choses. Il y a une immense entreprise à Chibougamau qui s'appelle Chantier Chibougamau.
Oui.
Une entreprise emblématique qui font des immenses poutrelles, ça fait travailler beaucoup de monde. J'ai appris qu'ils vont engager des dizaines et des dizaines de travailleurs aux Philippines.
Aux Philippines?
Ah, oui. Imaginez le coût. Alors, j'ai appris ça. J'ai appris que dans le commerce au détail, à Chibougamau, par Rouyn-Noranda, dans bien des commerces, on trouve personne, même si les salaires sont bons, parce que y a pénurie. J'ai appris aussi que les primes qu'on accorde pour les employés de la fonction publique, qui est une prime d'éloignement ou nordique, ça suffit pas encore assez pour que les gens choisissent le Nord. Et ça m'inspire quoi? Mais il y aura une nouvelle mouture du plan Nord, le ministre l'a annoncé. D'ailleurs, je l'ai précédé, la mairesse de Chibougamau a dit, ben, vous êtes arrivé avant le ministre, là, je l'attends. Il va falloir que ça soit aussi habiter le Nord. Pas juste une exploitation débridée des ressources, mais habiter le Nord, les populations qui sont là, ils ont des besoins d'infrastructures, ils ont un potentiel exceptionnel, ils aiment leur qualité de vie. Il va falloir penser à ça. Toutes ces régions-là, Fermont, Chibougamau, le nord du lac Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, ils ont besoin de monde, puis ils ont besoin qu'on les aide, mais ça va bien, là, il y a des bons salaires là-bas. Alors, c'est un constat que j'ai fait de ma tour.
Mais dis-moi, Pascal, toi, tu es un député de région, d'une Matane, la région voisine de la mienne, Rimouski. Est-ce que cette question de pénurie de main-d'œuvre a des conséquences sur cette région-là,
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie? Absolument. Aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un bassin de travailleurs disponibles qui sont formés, une fois que tout le monde a un emploi, oui, il y a des gens qui sont physiquement disponibles mais qui n'ont ni les qualifications professionnelles, ni les aptitudes pour combler les postes. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas en emploi, mais ils ne seraient pas capables d'occuper des postes spécialisés. C'est pour ça que les régions participent à des foires de l'emploi, puis on est en concurrence pour aller chercher des travailleurs qualifiés du Québec, des gens, par exemple, de la ville qui auraient envie de vivre la campagne, ou de l'international, des Français, par exemple, qui ont envie de venir l'expérience en Amérique. Tout ça, là, c'est un marché, puis c'est une concurrence qui est énorme pour les meilleurs travailleurs. Alors, Québec, on le vit, mais il va falloir penser à... Et ça, c'est un lien avec l'immigration, on en a parlé la semaine dernière. C'est un incontournable. Faut juste faire ça correctement, puis choisir nos critères et donner leur juste aux gens qui veulent venir chez nous.
Oui, c'est ça, parce que je voulais dire, c'est quoi, maintenant qu'on constate le problème, quelles sont les pistes de solution?
Bon, alors, du cas qu'on a eu là, dans les dernières semaines, 18 000 quelques dossiers, la priorité, nous, on disait d'abord ceux qui parlent français, ceux qui sont au Québec, ceux qui peuvent s'intégrer en emploi ou en voie de l'être. Ça, c'est un enjeu. Ensuite, nous, on propose que 25 %, on le disait dans la campagne, on le dit encore, 25 % d'immigration soit déployée en région. Donc, hors Québec, Montréal, Laval, Longueuil, parce que ils ont des capacités d'intégration en emploi, puis aussi de bonne intégration. Seulement, ça se passe plutôt bien quand il y a un réseau qui se crée. Et pour le reste, ça va être la formation. Hier, j'étais à l'université d'Abitibi-Témiscamingue. Vous savez que c'est une université qui est relativement jeune, 1983-84. Et ils m'ont dit que le taux de diplomation, l'université était à 3,5 avant l'université, puis ils ont augmenté ça de façon considérable. Puis les gens ont accès à des emplois qui, autrefois, n'étaient pas accessibles dans leur région. Alors, ça passe beaucoup par la formation. Et tant qu'on dit ça souvent, mais c'est vraiment là que ça va se passer, c'est l'économie du savoir. Puis en même temps, on a besoin de gens pour faire des jobs très manuels puis très payants aussi dans des chantiers. Alors, tout le monde à l'ouvrage, mais avant ça, tout le monde en formation.
Mais d'un autre côté, dans les régions, un des problèmes, c'est qu'il y a du chômage l'hiver puis que ça travaille fort l'été. Puis le chômage l'hiver, là, c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant.
Ouais, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a des emplois. Je vais donner l'exemple du chantier maritime Véro à Léméchin, où des soudeurs, là, s'il y en avait 20 qui se déplaçaient cet après-midi, ils seraient tous engagés. Même chose chez Marmène à Matane. Ça, c'est à l'année. Là, on a des emplois saisonniers, moi, je pense, en tout cas, qu'on est capable de compléter des postes. Par exemple, dans l'industrie touristique, si on développe davantage le tourisme hivernal, on est capable de faire en sorte que ceux qui travaillent l'été, je vais donner un exemple, les jardins de Métis, dans ma circonscription, on pourrait travailler une station de ski, par exemple, dans l'offre touristique.
Alors, du ski ailleurs, là, c'est parce que vous allez créer quelque chose où les régions vont devoir se chicaner entre eux.
On a le ski déjà, Myriam. On en a trois stations. On en a une qui s'appelle le Mont-Commis. Mais je parle des gens qui sont déjà sur place.
Mais cannibalisez pas ce qui existe en créant autre chose, là, tu sais.
Non, mais avec les changements climatiques, un jour, c'est nous autres qui vont avoir le plus de neige au Québec.
On a déjà pas mal plus que les autres.
On a encore plus que vous autres.
Ah, ben, y a, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils prétendent qu'ils ont eu 6 mètres.
Au Mont-Valin, il y en a pas mal, ça a
l'air. Ils sont rendus à 6 mètres dans le massif de Petite Rivière aussi.
C'est une bonne saison. J'ai vu ça à vol d'avion tout à l'heure.
Mais tu sais, les gens de Québec qui vous écoutent, ils disent, garde, on en manque ici. Pourquoi est-ce qu'on irait en envoyer dans la région? Ben, pourquoi est-ce que quelqu'un irait vivre dans les mouches l'été puis à moins 50 l'hiver, alors qu'on a du confort, ici?
Bon, là, vous me défendez.
Complètement.
C'est un choix de vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment la vie urbaine, puis ils sont prêts à accepter la vie urbaine, là, je parlais beaucoup de Montréal, mais accepter les bouchons de circulation. Puis il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre ça, qui ont envie de vivre dans la nature, 5 minutes après leur travail être rendu chez eux. Il y a une question de choix de vie. Plus jeune, souvent, on aime la vie urbaine, puis avec le temps, avec la famille, peut-être la banlieue ou la nature, ça évolue dans notre vie.
Pascal, je me porte à ta défense, je sais pas dans ton cas, mais moi, ça m'est arrivé souvent à Rimouski de voir soit des ingénieurs, parce qu'il y en a beaucoup à cause de TELUS, là, soit des médecins, puisqu'il y en a beaucoup à cause de la grosseur du centre régional, qui étaient allés à Rimouski dans l'esprit d'être là 2-3 ans, dans le cas des médecins, de prendre la prime là, d'éloignement, puis qui disaient, ben après ça, on va revenir à Montréal ou à Québec, tu sais. Mmh. Puis qui
restent. Ils sont restés.
Ils restent parce qu'ils découvrent une qualité de vie qu'ils ne soupçonnaient pas.
Oui, puis on a des gens qui sont intégrés parfaitement, qui viennent d'ailleurs, qui ont souvent aussi suivi un conjoint ou un conjoint. C'est une question de choix de vie. Moi, je suis convaincu que pour Québec, il y a un attrait fantastique, la vie culturelle, ça bouge à Québec. Alors, c'est très attractif. On a énormément des gens des régions qui ont envie d'être là. Regardez, là, la migration, elle provient beaucoup de l'Est du Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Mais il y a des gens aussi qui vont vouloir faire le chemin inverse à des moments de leur vie. Ils vont vouloir vivre autre chose. Et si on donne des infrastructures égales partout au Québec, téléphonie cellulaire, Internet, haute vitesse, il y a plein de choses pour des travailleurs autonomes qu'on est capable de faire à distance, qui ne nous dispensent pas de venir une fin de semaine à Québec et de contribuer au commerce puis à vivre d'autres choses.
Je suis assez d'accord avec vous. Faut faire attention aux régions parce que un pays, moi je ne connais aucun pays, puis vous rêvez d'indépendance, je connais aucun pays civilisé où la moitié de la population est dans une seule ville.
Si on n'occupe pas le territoire, on le perd un peu. Et là, il y a une concentration qui est forte. Québec, la population est relativement stable, elle ne décroît pas. Toi, les derniers chiffres que j'ai vus, là, c'est plutôt stable. Montréal perd du monde, vers les banlieues. Alors, il y a énormément de
26
monde.
26 000 l'année dernière.
Partout. Les familles, pour beaucoup. Alors, mais il y a des enjeux de logement, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on gagne à occuper notre territoire, puis à être heureux, quelle que soit la région. Et ça a l'air que les régions les plus heureux, c'est la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent. Il y a un sondage.
Et voilà, je le savais. Je le savais, Pascal et moi, on est du... On est en train de devenir des jovialistes, tellement on est heureux.
Oui, oui, bien, avec ton rire communicatif, là, c'est déjà connu, ça, d'être un jovialiste.
Hey, Pascal Bérubé, je voulais vous demander, SNC-Lavalin, y a-t-il encore quelqu'un qui croit que ça peut être sauvé contre eux-mêmes, ça?
Oh là 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 là.
T'sais, moi, j'essaie de... La compagnie veut pas payer pour ses péchés, elle accuse ses anciens dirigeants.
Non, elle veut payer pour ses péchés, c'est pas vrai, ça. Oui, elle était prête à donner 200-300 millions.
Laisse-moi finir, là.
Je la ferme, Pascal.
Elle poursuit ses anciens dirigeants. En disant c'est de leur faute à eux autres. Les anciens dirigeants s'en tirent relativement bien pour toutes sortes de raisons devant les tribunaux. Puis les gens sont en colère parce qu'ils ont l'impression que personne ne va finir par payer sérieusement pour la corruption. Pensez-vous sincèrement qu'on peut encore sauver SNC-Lavalin?
C'est souhaitable, en tout cas. C'est souhaitable pour ce que ça représente comme expertise pour les travailleurs. Si on perd ça, il y a quelqu'un qui gagne ailleurs. Moi, je suis capable de segmenter tout ça. Ceux qui ont causer des gestes regrettables mérite d'être accusé, mérite d'être condamné. Et là, je ne vais pas plus loin, c'est la justice. Mais est-ce que l'entreprise doit être sauvée de la meilleure façon possible? Absolument.
Avez-vous vu le reportage d'enquête qui démontrait que c'était, dans à peu près tous les dossiers, il y avait de la corruption?
Oui, mais c'est des têtes dirigeantes. Hein? L'honnête travailleur, moi j'en connais là, qui travaille là, eux, ils n'avaient pas connaissance de ça du tout. Mais ils sont quand même pénalisés. Alors, on est capable de segmenter les deux. Et là, il y a comme dans le Canada anglais, puis là, ça existe, là, des gens qui mélangent un peu tout en disant, ben c'est une entreprise aux méthodes douteuses. Je dirais, il y a des dirigeants, mais il faut pas mélanger toute l'entreprise. Ça, c'est regrettable. Alors, bien sûr qu'il faut préserver ses emplois, punir les gens qui devraient l'être aussi.
Donc, Trudeau avait raison. Je vais te faire dire à Pascal Bérubé que Trudeau avait raison.
Pascal, vas-y, Trudeau avait raison, vas-y.
On est dans une société de droit. Alors, on applique les règles de droit.
Pascal, sage, hein? Dit Trudeau avait raison.
Pas capable.
On veut avoir une première.
Comme le vieux conservateur en toi ne serait pas capable de le dire, Luc.
Merci beaucoup.
Non, je l'ai dit, Trudeau avait raison, tu peux être sûr. Moi, je ne suis pas gêné. C'est parce que tu es séparatiste, c'est ça ton problème.
Ah, les séparatistes. Ouais. Indépendantiste. Moi, je ne veux pas me séparer.
Ah, bon,
je veux m'affranchir.
Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Bonne fin de relâche.
Salut.
Bye. Il est midi 53 minutes.
C'est galère.